Voilà, donc à titre d'introduction, je voudrais vous dire une série de petites choses sur l'utilité de rechercher tous ces faits historiques que je vous ai exposés la fois passée et encore cette fois-ci avec une certaine minutie, certains détails. Pourquoi ? Donc, certains m'ont dit que je tournais un peu autour du pot et que la question était, bon, est-ce que oui ou non, il y a finalement des diaconesses ou pas, est-ce qu'on peut en faire, voilà. Mais, je crois que, justement, la question, une question qui se pose comme ça au niveau de l'Église catholique, qui a 2000 ans, qui regroupe 1,3 milliard de... d'adhérents, prenez une feuille de route, là n'oubliez pas de prendre une feuille. C'est une histoire des institutions. Une histoire des institutions. En histoire, on peut faire l'histoire des grands personnages, évidemment. Dès qu'on fait l'histoire d'une institution, comme un tribunal, etc., c'est différent. Si on fait un pays, c'est encore différent. Mais évidemment, l'Église, c'est peut-être l'institution qui, jusqu'à ce jour, a duré le plus longtemps et a le plus d'importance. L'Église catholique ou bien les chrétiens. Donc l'Église est une institution et c'est notre chance. Nous sommes des individus mais nous appartenons à une communauté et ça fait partie aussi de notre foi. Et on ne traite pas l'histoire d'une institution comme on traite une histoire, je dirais, quelconque. Essayer de faire bouger quelque chose dans une université belge, par exemple, hein, qui est bien solide, avec son personnel, avec ses finances, etc. Et pourtant, c'est une petite université dans une petite ville. Hein, et ça n'a pas de comparaison avec l'Église catholique. Et pourtant, on sait bien que c'est très difficile d'avoir des décrets qui et que, etc. Bon. Voilà. Alors, un peu un contre-argument, c'est... Sans vouloir entrer dans les polémiques, on voit bien ce que Luther et Henri VIII, par exemple, ont provoqué en n'étant pas d'accord avec quelque chose dans l'Église. Eh bien, ils ont voulu faire une autre Église et finalement, ils en ont fait combien ? Ben, 200 ou 300. Une fois que l'unité est perdue, elle s'émiette tout de suite. Donc, c'est très, très important, quand on a affaire à une institution comme l'Église, de voir... le poids de toute l'histoire, évidemment, de toutes les décisions qui ont été prises auparavant pour garder l'esprit, pas l'esprit de l'Église, l'esprit du Christ, qui se joue dans des choses que parfois, disons, lorsqu'on a le nez sur l'actualité, on considère comme des détails, mais peut-être qui, dans un grand flux historique, eh bien, sont plus importants qu'on croit. D'ailleurs, le pape François est très prudent. Après le synode d'Amazonie, il n'a rien décidé, contrairement à ce que parfois on entend dire. Hein. Et il a dit qu'il allait remettre une commission sur le travail. Et par exemple, le cardinal Schönborn, qui le connaît bien, a tranquillisé certaines personnes hein, en disant « Non, non, le pape ne fera rien sans avoir mûrement réfléchi. Hein, et peut-être qu'il ne fera rien du tout, on verra. Hein. » Donc. Voilà, cette prudence est nécessaire parce que sinon, il y a le schisme qui est évidemment en point de mire. Hein. Certains ont déjà parlé de cela. Lorsque je vais maintenant développer certains points avec des faits qui vont peut-être nous paraître incompréhensibles ou bien scandaleux même, etc., je ne jette pas du tout le discrédit sur l'Église catholique du 11e ou du 12e siècle. J'essaie de comprendre ce que des gens de bonne volonté, des gens de haute sainteté aussi, comme Grégoire VII, hein, le pape qui a lancé la réforme grégorienne. Comment ces gens ont essayé de gérer la réalité au moment où ils étaient là, avec toute la mentalité qu'ils avaient. On ne peut pas juger des choses qui se sont passées il y a 1000 ans, simplement à partir de nos critères d'aujourd'hui. Hein. Il faut une herméneutique, comme on dit. Ça veut dire qu'il faut entrer dans une interprétation de ce que ces gens-là ont vécu, hein, et nous ont transmis bien sûr, mais ont vécu de l'intérieur, en voulant être eux aussi fidèles à l'héritage du Christ, hein, du Christ avant tout, avec évidemment les contraintes et les appels et les nouveautés de leur temps. Mais donc c'est brosser un peu tout le décor historique et mental hein, qui a conduit à la disparition du diaconat féminin. Et je vais d'ailleurs vous montrer que le diaconat masculin permanent avait disparu bien avant. Il avait disparu bien avant le diaconat permanent masculin.
Et pour des raisons qui aussi jouent sur la question du diaconat féminin.
Et c'est pourquoi je pense que reprendre la question du diaconat masculin est aussi important ici pour les femmes diacres, parce que si Vatican II a restauré quelque chose qui avait disparu, eh bien c'est qu'on a fait un raisonnement théologique, on a fait une conclusion historique, théologique, ecclésiologique, qui est probablement, disons, du même ordre pour les diaconesses. Si jamais on restaure un jour les diaconesses, ce que j'espère, évidemment, pour ma part, hein, je crois que je ne cache pas mes opinions, mais il ne suffit pas de le répéter, il faut essayer d'aider à ce que ça se fasse, eh bien, il faut sans doute reprendre ce raisonnement qui a été fait, cette évidence qui s'est imposée progressivement pour le diaconat masculin permanent, hein, j'insiste, hein, parce que le diaconat transitoire, lui, a toujours existé, mais justement, c'est là le problème. Donc, réflexion à partir du diaconat permanent masculin et de ses caractéristiques propres. Comme on l'enseigne dans les bons cours de théologie, eh bien, le diacre est ordonné non ad sacerdotium, épiscopie, sed ad ministerium, épiscopie. Ce qui veut dire en bon français, hein, qu'il est ordonné non pas pour le sacerdoce de l'évêque, mais pour le ministère, pour le service, pour l'activité de l'évêque. Donc il est au service de l'évêque, comme le prêtre, mais dans un autre rôle, pas dans le rôle sacerdotal, dans un rôle qui est différent. Alors pour cela, il faut un petit peu revoir comment, dans les 2, 3, 4 premiers siècles, surtout les 2, 3, 4 premiers siècles, parce qu'à partir de l'édit de Milan 313, l'histoire de l'Église va fortement changer, c'est important. Au début, le phénomène chrétien était surtout un phénomène urbain, et donc l'évêque célébrait l'Eucharistie dans son diocèse, et il était le seul à le faire. L'évêque célébrait l'Eucharistie, d'ailleurs pas quotidiennement au début, il célébrait l'Eucharistie, et il était entouré par son presbytérium. Le presbytérium était comme une couronne autour de l'autel. Mais le célébrant principal, le vrai célébrant, si on veut, c'était l'évêque, qui exerçait donc son sacerdoce et qui était aidé par le presbytérium pour exercer ce sacerdoce. Ces prêtres s'occupaient donc d'aider l'évêque dans ses tâches spirituelles. L'évêque était le responsable, hein, et les prêtres étaient là. Ce n'est que plus tard que les paroisses devenant un peu rurales, il y eut des lieux de culte, des églises un peu plus lointaines, et on envoya des prêtres de la cathédrale, hein, de venir curer dans les paroisses. Et là, ils ont commencé à célébrer seuls, au nom de l'évêque. Au nom de l'évêque, parce que c'est l'évêque le vrai, hein, le vrai responsable du diocèse. Donc ils célébrèrent la messe là-bas, mais ils étaient souvent seuls. Parfois deux, etc. Quant aux diacres, qui sont ordonnés pas pour le sacerdoce, justement, donc pas pour aller dans les campagnes devenir curé, hein, mais ni pour être avec l'évêque autour pour la concélébration eucharistique, ils sont ordonnés ad ministerium episcopi, ça veut dire pour aider l'évêque dans son ministère davantage justement pour les tâches matérielles, pour l'organisation de l'Église, notamment pour les finances. Hein. Voilà donc... un diocèse, ça demande toute une organisation. L'évêque a besoin d'aide, d'assistants, non pas pour dire la messe, non pas pour donner les sacrements, hein, mais pour faire marcher le diocèse. Et donc, ils sont les assistants privilégiés, personnels de l'évêque, auprès de lui, dans la ville. Ils ne vont pas dans les campagnes, eux. Hein. Ils restent dans la ville, auprès de l'évêque, et normalement, ils ont des missions ponctuelles, des missions bien précises pour faire tout ce que l'évêque voudrait faire et n'a pas le temps de faire, et qui n'est pas directement de l'ordre de l'Eucharistie, des sacrements, etc. Alors, au chapitre 6 des Actes des Apôtres, comme on l'a rappelé la dernière fois, il y a l'institution apostolique des diacres, même si je vous ai dit qu'il n'y a pas le mot diacre dans le texte, mais il y a le mot diaconia, trois fois, hein, le mot service, le service des tables et le service de la parole. Donc, combien sont-ils? Ils sont sept. Ils sont sept. Ça, c'est un, voilà, c'est une donnée historique. Et justement, les premières églises ont voulu que dans un diocèse, il y ait, s'il y avait des diacres, eh bien, qu'ils soient maximum sept, hein, pour être autour de l'évêque, pour servir l'évêque, parce que c'était l'institution apostolique comme cela. Quand je dis institution apostolique, je signifie donc qu'ils n'ont pas été institués par le Christ lui-même, hein, comme l'ont été les apôtres pour être croix, pour être évêque, pour être prêtre, enfin il n'a pas dit, hein, pour être avec lui. Voilà. Le fait que les diacres soient auprès de l'évêque, au nombre limité de sept, alors que les prêtres, hein, les diacres sont auprès de l'évêque, alors que les prêtres, eux, sont, avec le temps, dispersés, ça fait que l'évêque était en connivence souvent plus grande avec les diacres, et une certaine rivalité commença à s'installer entre prêtres et diacres. Proximité de l'évêque, hein, tâche un peu plus spéciale, un peu plus personnelle, etc. Ils sont un peu les hommes à tout faire, et donc voilà, hein, ils peuvent faire des choses importantes, un peu secrètes, un peu... voilà. Alors, ceci supposait aussi qu'au fond, au début, on était, l'évêque était ordonné des prêtres, ordonnait des diacres, mais il ordonnait les uns et les autres à leur ministère, et il n'y avait pas cette séquence, il faut d'abord être diacre, et puis prêtre, et puis évêque. Alors ça, c'est très important. Il semble bien qu'au début, eh bien, on avait un schéma triangulaire plutôt que linéaire. Ce n'est que plus tard qu'on a fait sept étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 étapes, et que ici c'est l'évêque, là c'est le prêtre, là c'est le diacre, etc. Il y avait d'autres ordres mineurs, comme on dit, hein. Ce n'est que plus tard qu'on a adopté cela. Ceci, c'est le schéma qu'on appelle du cursus honorum. La course aux honneurs, bon, on ne vous explique pas pourquoi, hein. La carrière des charges, la course aux honneurs, bon. L'évêque avait plutôt son bras droit et son bras gauche, hein, les uns à droite, les autres à gauche, et ils se servaient de leur service, chacun dans leur spécificité, si on veut, et on ne devenait pas prêtre parce qu'on avait été diacre. Il y avait une certaine étanchéité entre les deux. Quand je vous raconte ça, vous vous dites, bon, c'est une curiosité. Ben oui, mais s'il y a des... s'il y a une ordination de diaconesse, on pourrait très bien retrouver ce schéma, justement. Est-ce que lorsqu'on ordonne des diaconesses, on est directement dans ce schéma-ci? Mais ce schéma-ci est plus tardif. Donc ce schéma-ci est plus antique, hein, plus proche de la primitive Église. Donc si on dit qu'au fond ce schéma-ci a ses défauts et que celui-ci a ses qualités, ben, tout de suite on ouvre quelque chose pour la question de l'ordination du diacre permanent, qui ne sera pas prêtre, et éventuellement d'une femme diacre qui ne sera pas prêtre. Évidemment, si on dit non, 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 tous les diacres doivent devenir prêtres, si possible évêque et le mieux c'est pape, bon, on est dans la cursus honorum, évidemment. Hein. Ça, c'est autre chose, c'est une autre mentalité. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque un évêque décédait, il fallait lui trouver un successeur. Alors, qui était le successeur de l'évêque? Eh bien, quelqu'un du diocèse, si possible, pris parmi les prêtres ou parmi les diacres. Ou parmi les diacres. Il n'y avait pas d'opposition à ce qu'un diacre soit choisi pour devenir évêque. Et il devenait directement évêque, sans avoir été prêtre. C'est ce qu'on appelle les ordinations per saltum. Vous avez ça sur votre feuille, là. Hein? Ordination per saltum ou per gradum. Alors ici, quand on est dans ce schéma-ci, on est dans un schéma où on entend qu'il y a des ordinations per gradum. Et sauter un échelon pour aller au suivant tout de suite, on ne comprend pas bien pourquoi. Mais si on est dans ce schéma-ci, on comprend bien que ce schéma-ci, où le diacre pouvait devenir évêque, une fois qu'on le transforme dans ce schéma-ci, ben, on est dans le per saltum alors, on saute, hein. Le diacre saute une étape pour devenir évêque. Mais saute une étape parce qu'on en a fait une étape. Ici, ce n'était pas une étape. Hein. on devenait évêque parce qu'on était le diacre qui, parmi les diacres et les prêtres, était le plus compétent pour succéder à l'évêque. Et souvent, il l'était parce qu'il connaissait mieux les rouages internes, je dirais, de l'Église, et parce qu'il était proche de l'évêque, puisqu'il n'y en avait que sept. Hein. Donc, il y avait là quelque chose de l'ordre d'une proximité avec l'évêque plus grande, qui permettait donc cette succession, hein, mais dans un schéma triangulaire, qui deviendra différente, un peu plus problématique, lorsqu'on passera à ce schéma-ci. Mais donc, une rivalité lorsque il est question de nommer un nouvel évêque. Alors, cette rivalité dans un diocèse quelconque pouvait exister, mais elle existait, je dirais, encore plus s'il s'agissait du diocèse de Rome. Parce que là, être évêque, ça voulait dire être pape. Bon, ça, c'est tout autre chose. Hein. Alors, lorsqu'on est évidemment dans ce schéma-ci à Rome, est-ce qu'on peut devenir pape en n'ayant pas été prêtre? Eh bien, écoutez, là, à Rome, ce choix était particulièrement délicat. Est-ce qu'on choisissait de préférence des prêtres? Je vous lis les faits ici. Jusqu'à la fin du IXe siècle, l'évêque était habituellement choisi parmi les presbytres ou diacres de Rome, pas d'un autre diocèse, hein, de Rome. Avec une préférence, dans ce dernier cas, pour l'archidiacre, si on prenait un diacre. Un certain Andrieux a identifié nommément, sans prétendre à l'exhaustivité, 35 diacres devenus évêques de Rome. 35 diacres devenus directement évêques de Rome, 22 presbytres romains, donc moins, devenus évêques de Rome. Donc vous voyez qu'à Rome, c'était très important cette question, avec cette rivalité aussi d'ailleurs, hein, cette rivalité qui d'ailleurs finalement a entraîné la suppression du diaconat permanent. Parce que, dit l'Ambrosiastère, hein, ils étaient arrogants, etc. Et Saint Jérôme dit aussi, c'était leur rareté, puisqu'on l'a limité à 7, hein, c'était leur rareté qui faisait leur prix. Et donc, comme ils se croyaient évidemment très importants, eh bien, ils avaient une certaine arrogance, dit Saint Jérôme, hein, par rapport aux prêtres. Saint Jérôme qui est parti en Terre Sainte parce qu'il avait été sans doute évincé lui-même par un autre candidat comme évêque de Rome.
La suppression du diaconat masculin, c'est une décision par désuétude ou par qui a été prise par un concile,
je ne sais pas. Eh bien, je vais essayer de l'expliquer. Je vais essayer de l'expliquer parce qu'on est passé de ce schéma-ci à ce schéma-là. Mais dans l'Église, on passe rarement d'un schéma à un autre du jour au lendemain. C'est comme en droit d'ailleurs et dans beaucoup de choses, hein. Ça tombe en désuétude, on décourage, on met des obstacles, etc. Et puis un beau jour, il y en a de moins en moins, puis un beau jour, on se dit, ben, il n'y en a jamais eu. Mais non, il y en a eu, mais on les a tellement découragés que, voilà, ils n'existent plus, puis on dit, non, ils n'ont jamais existé. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit d'exister, d'ailleurs. Bon, ah ben, ils existaient quand même, quoi, hein. C'est un fait. Donc voilà, je vais un peu expliquer les autres raisons, hein. Mais cette coutume ancienne du Per Saltum, donc, était importante pour Rome. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on utilisait le même rituel. On utilisait le même rituel pour devenir évêque de Rome. C'est important aussi, ça. Hein. Donc, quand on devient évêque à partir de ce qu'on est. Et on ne mentionne pas ce qu'on était avant. On mentionne dans le rituel ce qu'on devient, avec le même rituel. Voilà. Ce n'est que plus tard qu'on a commencé à choisir l'évêque de Rome dans des diocèses autour de Rome. Autour de Rome. Et puis après, autour de Rome, ça voulait dire dans le monde entier. Mais il a fallu un certain temps. À partir de 1516, tous les papes étaient évêques au moment de leur élection, à 5 exceptions près. Puis 1516, ils étaient tous évêques. Mais évêques, évidemment, pas de Rome, puisqu'il n'y en a qu'un. Hein. Mais évêques d'un autre diocèse, souvent italien, mais maintenant, évidemment, on va un peu plus loin. Un autre auteur, entre 687 et 891, donc à peu près 200 ans, des 28 papes qu'il a examinés, qui se sont succédés, 14 ont accédé à l'épiscopat de Rome, Per Saltum, ça veut dire en étant diacre, hein. 5 n'avaient jamais été ordonnés prêtres, donc ils étaient diacres, et d'autres n'ont jamais été diacres. tant qu'ils étaient prêtres, sans avoir été diacres, et ils sont devenus évêques de Rome. Donc voilà, Père Salto avant ou au moment même, hein, mais donc c'est quand même important, hein, sur 28, 14, Père Salto, oui.
Oui, lorsqu'ils devenaient diacres, ils devenaient évêques, ils étaient ordonnés prêtres à ce moment-là?
Non, justement.
Et donc,
mais là, ils étaient ordonnés évêques.
Donc il y a même eu des papes qui n'étaient pas prêtres.
Ben, puisque le prêtre
ils
était...
Ils ordonnaient des évêques?
Puisque le prêtre est ordonné pour aider l'évêque, le diacre, s'il devient évêque, ben, il n'a pas besoin d'être ordonné aide de l'évêque et puis évêque.
D'accord, mais donc la fonction des évêques qui ordonnent les prêtres,
oui.
Ça ne marchait pas dans ce cas-là, puisque si l'évêque n'était pas prêtre, il ne pouvait pas même ordonner prêtre.
Oui, oui, parce que...
Sans être prêtre lui-même.
Oui, parce que justement, c'est ça la question. Hein. On a ce schéma en tête.
Oui.
Mais on ne parvient pas. On voit toutes les objections à partir de ce schéma. Parce que ça fait 1000 ans que ça marche, ce truc. Ça fait 1000 ans que ça marche. Alors, tout le monde dit, ben, c'est la tradition. Ah oui, la tradition de 1000 ans. Et ça, c'est une tradition antérieure. Oui.
Étant évêque, il célébrait l'Eucharistie.
Bien sûr.
Donc, étant ordonné évêque, ils étaient ordonnés prêtres en même temps.
Ben, il était le prêtre par excellence.
Oui, voilà.
C'est plutôt cela dont il faut se demander pourquoi il célébrait la messe. Hein? Dans cette optique-ci, il faudrait se demander mais pourquoi ils célébraient la messe puisqu'ils ne sont pas évêques. Hein? C'est pas le droit, disons, de célébrer la messe ne revenait pas au prêtre, il revenait à l'évêque. Et c'est l'évêque qui le délégué. Donc il faut se mettre dans cette mentalité. C'est à partir justement du 12e, 13e siècle qu'on va dire qu'est-ce que c'est un prêtre, celui qui fait la messe. Voilà. La définition du prêtre, c'est celui qui fait la messe. Mais sinon, la définition du prêtre, c'est celui qui aide l'évêque qui fait la messe. Voilà, il faut se mettre un peu dans cette mentalité pour voir comment les concepts, je dirais, peuvent jouer. Et éventuellement, dans ce jeu, on retrouve une possibilité pour le diacre permanent. Le diacre permanent, on retrouve ce schéma-ci. Hein. C'est d'ailleurs assez curieux parce que maintenant, il y a à la fois les deux schémas. Hein. Il y a le diacre transitoire. Et le diacre permanent. On a les deux schémas qui se conjoignent. Voilà, on a combiné les deux. Ils ne sont pas exclusifs. Mais c'est quand même deux diacres au niveau du sacrement de l'ordre. Mais de nouveau, le sacrement de l'ordre, il a été défini au 11e, 12e siècle. Pas avant. Dans sa définition scolastique, si on veut. Donc, ils sont diacres de même rang par rapport au sacrement. Mais ils sont vraiment des diacres différents. Ça ne veut pas dire opposés, mais ils sont différents. Voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tous les prêtres ou tous les évêques soient égaux à tous les prêtres et tous les évêques? Voilà, c'est une fonction qui peut avoir différentes facettes. Donc voilà, je prends par exemple des gens que vous connaissez peut-être, hein, qui ont été finalement ordonnés per saltum. Caliste, Cyrus, vous ne le connaissez peut-être pas, hein? Bon, d'accord, mais Léon le Grand, Léon le Grand, même si on ne sait pas qui c'est, on sait que c'est Léon le Grand, quoi, hein? Grégoire le Grand, c'est aussi un grand pape, sans doute, hein? Bon. Athanase d'Alexandrie, c'est quand même aussi, hein, un grand lutteur du concile de Nicée, qui, par parenthèse, a été en exil à Trèves, hein? Ici, pas très loin. Un Égyptien, en exil à Trèves. Ambroise de Milan, on le connaît quand même bien. Ben lui, il a été ordonné avec un bon saltum, hein, puisqu'il a été choisi comme évêque. Quand? Il était quoi avant?
Catéchumène.
Il n'était même pas baptisé. Il était catéchumène. Il était au catéchisme. Alors évidemment, c'était un homme qui avait déjà une carrière administrative dans l'administration politique, dans l'administration romaine, mais il était catéchumène, il désirait recevoir le baptême. Et il ne l'avait pas reçu. Il est passé de catéchumène, ça veut dire de non-baptisé, à évêque de Milan. Bon, ça c'est un beau saltum. Saint-Augustin.
Ah, oui.
Saint-Augustin, bon, c'est l'évêque d'Hippone. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas été, lui? Il n'a pas été prêtre ou il n'a pas été diacre?
Il a été marié.
Il a été marié. Donc un grand saltum aussi. Donc, il a été... presbytre sans avoir été nommé diacre. Donc là, il a fait le saut de baptisé à prêtre.
Il était réellement marié ?
Alors ça, c'est une autre question. Mais on peut se la poser. On peut se la poser. Alors, le clou du spectacle, quand même, c'est que le pape Hildebrandt, Grégoire VII, donc qui est devenu pape en 1073, qui est vraiment l'initiateur de la réforme grégorienne, le pape Grégoire VII, eh bien, a été ordonné per saltum. Et quand il a fait le saut, il a dit « Maintenant, c'est fini, plus personne ne le fera. » C'est fini, hein, cette histoire de per saltum, ça ne marche pas. Et il venait d'être ordonné per saltum. Hein. Évidemment, on comprend, hein, il est dans une histoire, hein, et il trouve que ça ne marche pas, et puis tout à coup, il est pape, alors il dit « Mais maintenant que je suis au pouvoir, je vais dire que c'est fini, les per saltum. » Et finalement, lui qui est le dernier, qui a imposé, donc là, il y a une décision vraiment du jour au lendemain, mais ça faisait des siècles que ça durait, eh bien lui-même avait profité, je dirais, de ce privilège antique, mais qui n'était pas un privilège, qui était naturel à ce moment-là. C'est devenu un privilège plus tard. Et par exemple, en 1917, le droit canonique, eh bien, lorsqu'un évêque ordonnait un diacre sans avoir l'intention de l'ordonner prêtre ensuite, soit parce qu'il n'en avait pas les capacités, soit qu'il n'en avait pas l'intention, le diacre lui-même, de devenir prêtre, eh bien, il était fautif. Il ne pouvait pas. C'était une faute contre le droit. Donc, l'évêque qui ordonnait un diacre, en 1917, devait avoir la certitude morale que l'année suivante, il allait l'ordonner prêtre. Il ne pouvait pas dire, je l'ordonne diacre, puis on verra. Eh bien, je l'ordonne diacre et il restera diacre. Non, il ne pouvait pas. Bien sûr, maintenant, c'est changé. Point 3. Donc, la disparition du diaconat permanent masculin, eh bien, c'est que, de plus en plus, s'est imposé le schéma per saltum. Per gradum. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça s'est imposé ? Donc, je reste au point 2 encore. J'avais oublié... Je reste au point 2. C'est la question du cursus honorum. En 313, vous ai-je dit, date importante, la religion chrétienne était une religion illicite, elle devient une religion licite. On peut la pratiquer. 380, Théodose dit même qu'on doit la pratiquer. Elle devient la religion officielle de l'Empire. Évidemment, ces deux dates changent tout dans l'organisation de l'Église. D'Église persécutée, pas toujours, mais quand même, on a entendu avec Madame Fouquet, d'église éventuellement persécutée, on devient église permise, et puis église imposée à tout le monde. Évidemment, quand on veut devenir prêtre ou diacre ou évêque, qu'est-ce qui est plus favorable comme époque, hein? Vous devinez bien que c'est après 313, ou 380, c'est pas avant. Avant, c'était un risque. On risquait sa peau en entrant dans le clergé. Donc ça se faisait, oui, ça se faisait, mais enfin, attention, parce que, alors ici, ça devient permis, donc le recrutement est plus facile. Et puis ça devient imposé, 380, alors le recrutement est encore plus facile parce qu'on est payé. On est même payé, on devient quasi un fonctionnaire de l'Empire. Il y a toute une organisation qui se met en place. Les diocèses, par exemple, étaient des divisions administratives déjà existantes avant l'Église. Ce sont des divisions de l'Empire, bien sûr, après ils ont peut-être un peu changé, etc. Mais voilà, or, dans l'administration romaine et dans l'armée romaine, il y avait un cursus honorum. C'est de là que ça vient. L'Église s'est adaptée en adoptant le cursus honorum. Ceci, c'est vraiment une invention qui date bien avant l'Église, de bien avant le cursus honorum ecclésiastique. Ça existait dans l'armée, ça existait dans l'administration, et c'est tout à fait normal. C'est partout. On monte par le cadre. À l'armée, on peut monter par le cadre. Comme on dit, on est nommé progressivement à des grades de plus en plus hauts. Et pourquoi ? Parce que comme ça, on a le temps de faire une formation, et il y a des délais, des intervalles, et on vérifie d'une année à l'autre si le candidat... à progresser, s'il a les compétences, s'il a la loyauté, hein, dans l'armée c'est quand même important, hein, dans l'église aussi, bien sûr, hein, dans l'administration aussi. Donc voilà, il y a tout un cursus honorum qui devient ben, un training, une formation et une vérification des aptitudes. Et voilà, c'est l'église qui s'adapte en adoptant ceci. Et le droit ancien, celui-ci, hein, est progressivement, tombe de progressivement en désuétude parce qu'on préfère ceci. En effet, puisque le recrutement se fait plus facilement, les candidats sont plus nombreux, donc il faut être plus prudent, parce qu'avant, le fait même de se présenter était déjà un fameux signe de courage, un fameux signe de loyauté. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on connaissait tout, mais disons, on était déjà assez avancé, je dirais, si on se présentait pour cette fonction. Alors, le point 3, le grand schisme d'Orient. 1054, pour moi c'est une autre date très très importante, hein, de notre histoire, de l'église catholique. C'est le moment où l'église catholique et l'église orthodoxe ben, se sont séparées, suite à des, bon c'est trop long à raconter, mais suite à des déboires à gauche à droite, bon voilà, les deux églises s'anathématisent l'une l'autre, et donc voilà, il y a l'église d'Orient, l'église d'Occident, c'est un peu l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident aussi, hein. Bien sûr, tout ça a un substrat historique. Et à partir de 1054, donc l'Église d'Occident, elle est débarrassée de l'Église d'Orient. Eh bien, quand on est débarrassé de quelqu'un, ben, on fait ce qu'on ne faisait pas quand il était là, quoi, hein. On est enfin libre de faire comme on veut. On n'a plus besoin de discuter. Bon, ben, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, les Occidentaux sont plus rationalistes, sont plus légalistes, sont plus organisés, sont plus tout ce qu'on veut. Donc on va faire une bonne, bien solide église catholique, hein, organisée. On ne va plus devoir, hein, faire toutes ces histoires avec les orientaux qui disent toujours oui et non, hein, qui disent c'est à peu près ça, oui. Non, maintenant on est enfin libre, on a les coudes franches pour prendre des mesures bien claires pour organiser l'église. Je crois que voilà, ce schisme, hein, a été très important pour l'organisation de l'église catholique. Alors c'est peut-être providentiel, hein, je n'en sais rien, je ne sais pas comment Dieu voit ça du haut du ciel, hein, mais en tout cas, cette organisation, qui a beaucoup d'avantages évidemment, hein, eh bien elle s'est faite à la faveur de ce schisme. Et alors qu'est-ce qui va se passer, eh bien à la faveur de ce schisme, on va créer le droit canonique. Bien sûr il y avait des règles. Mais il y en avait dans tel diocèse qui se contredisait avec tel autre diocèse, et puis ici, il y avait la règle, mais on ne l'appliquait pas, là, il n'y avait pas de règle, mais on l'appliquait, enfin bon, ça ne va pas tout ça, hein. Donc il y a un certain Gratien qui a dit, moi je ramasse tous les textes juridiques que je trouve dans la tradition de l'Église, et je vais en faire une concordance. Je les mets ensemble, je vois ceux qui sont contradictoires, je supprime les mauvais, je garde les bons, et maintenant on est sûr que c'est cohérent. C'est ce qu'on appelle le décret de Gratien. Alors ce n'est pas un décret, c'est une compilation énorme avec toutes les règles anciennes et la conclusion avec les règles nouvelles. Et maintenant, c'est clair, quoi. Et ce décret de Gratien de 1140 à peu près, je vous ai mis là, est la source du droit canonique moderne de l'Occident. De l'Occident. Alors, dans la même foulée, eh bien, on va enfin réussir à imposer la loi du célibat qu'on avait demandé d'appliquer depuis le pape Cyrille et Damase en 400. Et ça fait des siècles qu'on demande que ça s'applique et ça ne s'applique pas. Ben maintenant, ça va s'appliquer. Hein. On prend des mesures juridiques et on fait des empêchements sur les sacrements et tout ça. Bon, de manière à ce que maintenant, ça s'applique. Il n'y a plus la possibilité, hein, de déroger à cette règle. Ce qui ira aussi dans le même sens, c'est que les sacrements, on va mettre de l'ordre dans les sacrements. Avant les sacrements, il y a beaucoup de choses dont on disait c'est quand même sacré, c'est quand même très important, hein. Alors bon, le baptême, on n'a jamais discuté du baptême, hein. C'est le premier des sacrements. Donc c'est le sacrement de l'entrée dans l'Église, donc c'est le sacrement du premier millénaire en fait, hein. avec un peu le corollaire du sacrement de pénitence. Ça veut dire, ben, si ayant reçu le baptême, on a été infidèle au baptême, est-ce qu'on peut quand même, hein, une fois être pardonné? Oui, une fois, pas plus. Hein. Puis après, on a dit, oui, peut-être deux fois. Hein, peut-être maintenant, chaque semaine. Bon. Hein, mais avant, c'était une fois. Hein. C'était la seconde planche du salut. Hein. C'était la dernière chance. On vous en donne une seconde. Hein, et après, c'est fini. Donc voilà, on travaille beaucoup le sacrement du baptême. Tout se construit autour de ce sacrement. La pénitence. Et vers la fin du premier millénaire, il y a de grandes polémiques autour de l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Il y a des controverses, et finalement, à travers toutes ces controverses, il y a une théologie de l'Eucharistie qui commence à se dessiner, qui est claire, hein. Et aussi, les théologiens se mettent à bien réfléchir à l'Eucharistie, et au bout de ces controverses, eh bien, on définit des choses. Le concile de Latran IV, 1215, introduit le mot transsubstantiation. Pour la première fois, on parle de transsubstantiation. Avant, on n'en avait pas parlé. Enfin, peut-être quelques années avant, dans un traité de théologie, mais ce n'était pas un mot qui était canonisé, hein, qui était reconnu comme faisant autorité. Donc l'Eucharistie devient très importante, et alors l'Eucharistie, si l'Eucharistie est importante, ben, le prêtre, c'est celui qui fait l'Eucharistie. Voilà, on a une définition du prêtre. Et on va bloquer ensemble ces deux sacrements, hein, Eucharistie et ordination. Alors ceux qui avant là, hein, le portier, l'exorciste, le sous-diacre, le lecteur, l'acolyte, tout ça qui ne faisait pas la messe, bon, pff, on n'a plus beaucoup besoin de ça, hein, parce que c'est même sacramentel, hein, sous-diacre, même le diacre, parce que c'est sacramentel puisqu'il ne fait pas la messe. Hein. Donc les théologiens réfléchissent là-dessus et ne sont pas si sûrs que ça, ils sont divisés là-dessus. Hein. Même la question de la sacramentalité du diaconat, pendant très longtemps, n'a pas du tout été claire. Attendre la fin du 20e siècle pour avoir toutes les clarifications là-dessus, dans le milieu. De l'autre côté, du côté oriental, ben, l'Église continue telle qu'elle a été, avec ce qu'on appelle souvent le césaropapisme, ça veut dire une alliance assez forte entre l'empereur et le patriarche, hein, avec souvent un patriarche qui est plutôt d'accord avec ce que l'empereur lui dira, hein. Et du côté occidental, non. Du côté occidental, là aussi, il y a des nations qui naissent. Hein, Charlemagne, Saint-Empire germanique, le roi de France, tous ces gens-là, là, ils trouvent qu'ils ont autant d'autorité que le pape, quoi. Et le pape dit, oui, mais non, c'est moi qui ai l'autorité. Hein. Donc ça, c'est la question de la querelle des investitures. Vous avez sans doute tous appris ça en histoire. Hein. C'est une affaire compliquée. Hein. Qui nomme les évêques? Qui nomme les gouverneurs? Qui nomme les... etc. Ben, le prince a certaines nominations, et le pape ou les évêques ont d'autres nominations. Ah oui, mais il y a des intérêts croisés, évidemment. Donc, bien sûr, le roi de France voudrait nommer les évêques. Hein. Oui, mais le pape aussi voudrait quand même avoir un contrôle sur ces évêques qui sont le frère du prince, etc., et qui étaient le fils du comte, et tout ça, donc... L'État, les États naissants, les États modernes naissants, si on veut, et l'Église occidentale, qui, elle, se prend en main maintenant comme une organisation, eh bien, entre aussi en rivalité. Hein. Et je crois que, donc, c'est un peu l'inverse du césaropapisme, hein. On n'a pas un pape qui est à la solde du roi ou de l'empereur, hein. Il y a des rivalités, des alliances, des mésalliances, etc. C'est pas comme en Orient où on arrange les choses autrement, on finit toujours par, etc. Non, là, on monte un peu au créneau et chacun veut affirmer son autorité. Il y a une fameuse bulle, Unam Sanctam, de Boniface VIII en 1302, qui dit ceci: il convient que le glaive temporel soit sous le glaive spirituel et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Que le pouvoir spirituel doive l'emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre, il nous faut le reconnaître, d'autant plus nettement que la réalité spirituelle, on le passe sur le temporel. Donc, on a bien compris. Hein. Donc, voilà, les rois, les empereurs doivent se soumettre au pape. Hein. Alors bien sûr, dans leur domaine, ils ont une certaine autorité, mais finalitaire, s'il y a conflit, c'est quand même le pape hein, qui doit, ou les évêques qui doivent trancher, quoi. Donc cette rivalité entraîne, je crois, au niveau des mentalités, la volonté de l'Église d'avoir une hiérarchie solide, une hiérarchie bien ferme, bien formée, bien virile, hein. Et célibataire, ben c'est plus facile, quoi, parce que les soldats célibataires, c'est quand même mieux que les soldats mariés, hein. Non seulement pour le combat, mais aussi pour l'héritage, hein. Parce que quand on est prêtre marié, il continue à y en avoir, hein. Voilà, il y a 5 enfants, l'église presbytère a beau petit jardin, tout ça, comment est-ce qu'on va diviser tout ça? Non, c'est à l'église. Oui, mais enfin, j'ai des enfants quand même. Où va aller le patrimoine? C'est un patrimoine d'église. Oui, mais enfin, disons, sur le côté quand même, il faut bien, puisque j'ai des enfants. Bon, donc il y a la question patrimoniale, hein, qui joue aussi dans la loi du célibat. Comment est-ce qu'on va faire? Il y a un mélange d'intérêts là. Donc, supprimons le mélange d'intérêts. Tout le clergé est masculin, célibataire. Voilà. Beaucoup de problèmes sont ainsi réglés. Hein. Beaucoup de problèmes sont réglés. On a des choses beaucoup plus claires. Donc, c'est le genre d'argument qui milite en faveur de la loi du célibat. Pas célibat comme tel, mais célibat, ça veut dire sans enfant, quoi. Hein. Alors, évidemment, celui qui n'a pas d'héritier, il donne tout à l'Église, quoi, c'est normal. Hein. Et ça continue, le patrimoine de l'Église n'est pas donc dépecé par des difficultés de cet ordre-là. Alors bien sûr, les hommes mariés pouvaient encore être ordonnés prêtres, mais on fait tout pour les décourager. Hein. Difficulté d'accéder aux dignités un peu plus importantes, aux avantages économiques qui étaient attachés à cela, les bénéfices, les prébendes. Hein. Réticence à ordonner les fils des clercs. Mon fils, il va être ordonné maintenant prêtre. Hein. Non, vous êtes un fils quand même. Vous n'êtes pas un fils naturel, mais enfin, vous êtes un fils de prêtre et ça va mener des difficultés, quoi. Hein. On fait des difficultés aux enfants des prêtres, même si ces enfants sont tout à fait légitimes. Hein. Alors, par parenthèse, par exemple, Erasme est un fils de prêtre. Fils naturel, évidemment. Donc, interdiction formelle, au cas où quand même il aurait été ordonné, de succéder à son père. Donc voilà, on met beaucoup de difficultés. Alors que dans l'Église ancienne, Saint Grégoire de Nazianze a été ordonné par son père, par exemple. Hein. Son père était évêque et lui a été ordonné prêtre et évêque par son père. Ça, c'est l'Église ancienne, c'est aussi l'Église orientale. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de manières de faire du premier millénaire, qui sont difficiles à comprendre aujourd'hui, parce que, pour nous, la tradition commence souvent, trop souvent, avec la réforme grégorienne. Nous prenons l'Église catholique, nous disons, on l'a toujours fait comme ça, depuis Grégoire VII, on a toujours fait comme ça, mais avant Grégoire VII, il y a eu quand même pas mal de choses. Et notre tradition n'est pas seulement le dernier millénaire, mais tout. Alors de nouveau, il ne faut pas être fondamentaliste et dire « puisque la tradition, ceci, cela », mais disons, on essaie d'être en résonance avec l'esprit de l'Église. Bien. Alors, pour la curiosité, on peut remarquer que dans certains textes, c'est un certain Gary Macy qui remarque cela, l'histoire secrète de l'ordination des femmes. Donc, le clergé féminin dans le Moyen-Âge occidental. Alors, il y a plein de faits intéressants ici. Il les interprète un peu à sa manière, bien sûr, mais les faits sont très nombreux et très intéressants. Et il y a des cas vraiment curieux. Hein. Alors, par exemple, on trouve des femmes qui sont appelées épiscopat, donc évêques au féminin. D'autres qui sont appelés presbytera, donc prêtres au féminin. D'autres qui sont appelés diacona ou diaconissa, d'accord. Alors il semble bien que dans les premiers cas, les deux premiers cas, épiscopat et presbytera, il ne s'agit pas, bien que Macy la donne des cas assez troublants, hein, de véritables évêques ou de véritables prêtres au féminin. Par exemple, il reconnaît qu'il n'y a aucun rituel, hein, pour l'ordination de presbytérat ou d'épiscopat. Mais alors, qui étaient ces épiscopats? Parce que parfois, même dans une église à Rome, on trouve cela. Hein, il y a une merveilleuse mosaïque, puis on met au-dessus, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais épiscopat. Et en plus, c'est la mère du pape suivant. Hein. Donc, que signifie cet épiscopat? Bon, est-ce que c'est un titre honorifique? Ou bien est-ce que c'est parce que son mari était évêque? Hein? Et d'ailleurs, dans certains cas, enfin bon, c'était aussi une question de la loi du célibat, hein? Lorsqu'on accédait aux dignités ecclésiastiques supérieures, on devait se séparer de son épouse. Est-ce que c'est parce qu'elle était la veuve de l'évêque? Hein? Presbytéra, la veuve du prêtre? Ou bon, tout ça, on n'en sait trop rien. Tout ça est possible. Hein? Tout ça est possible, ce n'est pas à exclure. Il faut étudier chaque cas, évidemment, en particulier. Mais on trouve des inscriptions. Hein. Donc, de prêtre au féminin et évêque au féminin et diaconesse. Bon, là, il y a différents cas. Soit on a des diaconesses qui sont, en effet, là, simplement la femme du diacre. Soit des diaconesses qui sont de fausses diaconesses au sens où ce sont des vierges ou des veuves, qu'on appelle ainsi. Soit ce sont des, entre guillemets, vraies diaconesses, mais qui sont à ce moment-là souvent des moniales, des abbesses, hein, des gens qui reçoivent un titre parce qu'elles ont, dans la vie religieuse, eh bien, une importance, hein, une autorité. Il y a des abbesses même qui avaient la mitre, des abbesses mitrées, donc qui avaient les symboles de l'évêque, non pas qu'elles étaient évêques par ordination, mais elles avaient une autorité semblable, par exemple sur leur territoire, parce que l'Église avait... notamment les abbayes, etc., avaient des territoires. Sur ces territoires, elles avaient l'autorité pour nommer les clercs, les curés, etc. C'est elles qui avaient cette autorité. Et ça, c'est une autorité épiscopale. Hein. Voilà, donc on trouve des cas où le mot diaconesse eh bien, est employé dans différents sens à l'intérieur de cet Occident médiéval. Je vous ai parlé donc des conséquences patrimoniales sur les biens de l'Église, ça joue aussi hein, dans la question de l'imposition de la loi du célibat. Maintenant, théologie sacramentelle, le point 5, le septénaire et l'importance de l'Eucharistie, donc du sacerdoce dans ce septénaire. Comme vous savez, il y a 7 sacrements. Ça, c'est Jésus-Christ qui a institué les 7 sacrements, hein, en commençant par le premier, le deuxième, il les a bien numérotés, hein, et donc on sait qu'il y en a 7. Quand un étudiant vient dire cela, aïe aïe aïe, hein, ici dans les DU de théologie, là on était presque busé, quoi, hein, quand on commençait comme cela. En effet, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, bon, il a fait certaines choses, bien sûr, mais il n'a pas institué lui-même les 7 sacrements. Il a donné des instructions, il a fait des gestes, bien sûr, il a imposé des mains, il a distribué le pain et le vin comme en disant que c'était son corps et son sang la dernière scène, etc. Bon, voilà. Mais ensuite, l'Église a développé hein, cette grâce sacramentelle qui nous venait du Christ de différentes manières. Mais le nombre de 7 des 7 sacrements, eh bien, lui aussi, date très précisément des environs de 1145. De nouveau, la même date. Hein, de la loi du célibat, du décret de Gratien, le septénaire apparaît En 20 ans, il apparaît dans cette sentence de la théologie d'un anonyme aux environs de 1145, et en 20 ans, il s'impose partout dans l'Église. Ah ben voilà, on avait 7 quand même, hein, 7 diacres, 7 suites, hein. Tout ça c'est bien clair, il y a 7 sacrements. Et d'ailleurs, il y a 7 degrés dans le sacrement de l'ordre. Tout va bien, hein. Il y a 7 sacrements, mais là il y en a quand même 7, bon ben là ça va faire un peu cafouillé, hein, mais enfin, voilà, on a quand même de nouveau 7. Et ça s'est imposé très rapidement, alors que pour d'autres personnes, enfin pour d'autres théologiens, ce n'est pas comme ça. Et au premier millénaire, c'est certainement pas comme ça. Hein. On a toujours été d'accord sur la sacramentalité du baptême, évidemment, c'est un sacrement. De l'Eucharistie, oui, mais c'était une évidence qu'on n'a pas définie par la transsubstantiation, etc. Ça, c'est 1000 ans plus tard. Pour certains, eh bien, le sacre du roi, ou bien la consécration des moines, ou bien les funérailles, ou bien le lavement des pieds, tout ça, ce sont des sacrements, l'équivalent de sacrements. Par exemple, Bernard de Clairvaux compte 10 sacrements. Pour lui, il y a 10 sacrements. Il arrive avant tout ça. Hein. Il est mort en 1153. Donc, juste à la limite. Donc, pour lui, il y a 10 sacrements. Alors que pour Fulbert de Chartres et Bruno de Wurtzbourg, qui sont quand même des évêques, il n'y en a que deux. Le baptême et l'Eucharistie. Ben oui, ceux que reprendront les protestants. Pour Pierre Damien, qui est l'inspirateur de Grégoire VII, hein, il y en a 12, y compris l'onction royale. Mais tout ça faisait bon ménage, il n'était pas nécessaire de se battre absolument pour savoir à cette époque-là hein, si c'était un sacrement, un vrai sacrement, un demi-sacrement. Non, c'était bon. Mais évidemment, l'esprit latin, je crois, hein, scolastique, a voulu définir les choses. On a donc donné une définition générale de sacrement, et puis on a dit qu'il y en avait 7, ni plus ni moins, et que le sacrement de l'ordre eh bien, se composait du cursus honorum. Alors on ne savait pas très bien où le sacrement commençait. Est-ce que c'était sous diacre, parce que le célibat était imposé à partir du sous-diaconat, ou est-ce que c'était diacre, ou est-ce que c'était prêtre? Bon, là on était sûr, hein, mais là on n'était pas trop sûr. Et voilà, il y a des théologiens encore aujourd'hui hein, qui tiennent pratiquement que le diaconat n'est pas un sacrement. Alors il y en a, ils sont pour le diaconat féminin, dans la mesure où ce n'est pas un sacrement. Donc vous voyez qu'on a, on a tous les arguments hein, qu'on peut mettre en valeur. Mais le sacrement de l'ordre, ben, il a cette difficulté, j'en reparlerai la fois prochaine, d'être septiforme, ou en tout cas maintenant triforme. Hein. Il y a 3 degrés. Mais est-ce que c'est 3 degrés comme ceci, ou 3 degrés comme ça? Eh bien, c'est les deux à la fois, puisqu'il y a le diacre permanent et puisqu'il y a le diacre transitoire. Il y a les deux. Alors, dernier témoignage concernant les diaconesses en Occident. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas beaucoup parlé des diaconesses, mais j'ai parlé de toutes les choses qui font que, progressivement, ben, elles vont être exclues. Hein. Elles vont être exclues. Mais les diacres permanents masculins ont été supprimés beaucoup plus tôt parce qu'il n'est plus subsisté que celui-là, hein, le transitoire. Donc on dit les diacres ont toujours existé, oui, mais sous une forme, pas sous l'autre. Et les diaconesses ont toujours existé, oui, jusqu'au 11e, 12e siècle en Occident. En effet, on trouve des rituels, voilà par exemple le grand pontifical romano-germanique de Mayence du 10e siècle, qui a une messe ad diaconam faciendam, pour faire une diaconesse. Alors le mot faciendam est encore assez flou. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bon. Ad diaconam consecrandam, du pontifical romain du 12e siècle. Alors j'ai mis en parenthèse 107 lignes, 69 lignes, c'est dans une édition donnée, peu importe, mais c'est pour dire que ça a une certaine ampleur. Hein. C'est pas 2 lignes dans un rituel pour dire, bon ben... voilà, vous pouvez aussi faire une petite prière sur ceci. Non, c'est développé, c'est toute une messe. Il y a alors des décrets de pape au XIe siècle. Benoît VIII, par exemple, en 1018, confère à un évêque, on peut aller voir de quel diocèse, le droit d'ordonner des diaconesses. Jean XIX, Benoît IX, Léon IX, tout cela émettent des décrets de même teneur, donnant l'autorisation à des évêques d'ordonner des diaconesses. Bon, un rituel, il est là, mais on ne sait pas si on l'applique. Allez voir tous les rituels qu'il y a dans la sacristie. Vous regardez, vous dites, tiens, bon, on peut faire une messe pour ceci. Ah bon, on peut bénir le chien. Ah bon, on peut faire ça. Bon. Il y a des tas de choses qu'on ne fait jamais, ou que vous ne faites jamais, ou que moi je ne fais jamais. Mais c'est là. Et avant d'enlever quelque chose d'un rituel, rien n'est plus conservateur qu'un rituel, évidemment. Hein. Et que les liturgistes qui font les rituels, donc on garde toujours pour si en cas. Hein. Donc on ne sait pas si le fait que ce soit dans un rituel signifie qu'il y avait des ordinations. Mais quand on donne à un évêque l'autorisation de faire quelque chose, on peut se dire qu'il ne donne pas l'autorisation pour rien. Hein. C'est peut-être parce que c'était contesté. C'est peut-être parce que lui voulait le faire et que son évêque voisin ne voulait pas. En 1139, 1146, eh bien, l'évêque de Lucca, Otto, avait des diaconesses dans son diocèse. On a les preuves. Hein. Voilà, ça, ce sont les derniers témoignages concernant le diaconès, mais le décret de Gratien dit très clairement qu'on ne peut pas ordonner de femme au diaconat, et c'est ce décret qui a valu donc jusque pratiquement aujourd'hui. Alors, comme conclusion, eh bien voilà, ce 11e, 12e siècle, hein, qui forme vraiment, hein, qui est le creuset de l'Église latine, romaine, occidentale, eh bien, dès les premiers siècles, qu'est-ce qu'elle invente, qu'est-ce qu'elle décide de la disparition des prêtres mariés, de la disparition des diacres permanents, de la suppression des ordinations per saltum et de la disparition des diaconesses. Et donc là, on a un clergé bien clair, hein, bien masculin, bien célibataire. Et voilà, c'est une église bien organisée qui peut avancer dans cette Europe, si on veut, dans cet Occident, qui s'organise maintenant à l'écart de ce qui se fait en Orient. La théologie sacramentaire elle-même s'est donnée une nouvelle forme, certaines définitions de sacrement, qui excluent pour longtemps les interprétations du premier millénaire. Hein? Bon, maintenant qu'on a des définitions claires, on ne va plus revenir aux auteurs qui disent « c'est peut-être oui, c'est peut-être non ». Maintenant, on a la réponse. Mais herméneutiquement, dans l'interprétation, est-ce que nous devons appliquer, nous, hein, les définitions que nous avons, nous, aujourd'hui, à des siècles précédents où on ne disposait pas de ces définitions et où on ne se posait pas ce genre de questions, hein? Oui, par parenthèse, le sacrement du mariage aussi est devenu un sacrement à ce moment-là. Hein? Bien sûr, il était quelque chose de sacré, il était une bénédiction, il était tout ce qu'on veut. Il y avait déjà un rite chrétien, qui avait d'ailleurs été très proche des rites, je dirais, traditionnels, mais il avait été élevé vraiment au rang de sacrement. Alors, le cardinal Müller, par exemple, cardinal préfet de la CDF, dit que toutes les interprétations actuelles de n'importe quelle notion valent pour les faits historiques passés. Il y a une espèce d'avancée, comme en science, je dirais, hein, qu'une théorie scientifique plus récente, eh bien, invalide les théories scientifiques antérieures. En science, ça marche. Hein. Voilà. Hein. Donc, il faut, je dirais, que le passé soit interprété à la lumière du présent. Parce que le présent est plus avancé, plus profond, plus spirituel, plus, etc. Mais je crois que beaucoup de théologiens ne tiennent pas du tout ça. Hein. Ils le tiennent en épistémologie pour les sciences, mais pas en théologie pour la vie chrétienne. Mais chez lui, c'est vraiment une thèse énoncée clairement. Hein. Je me demandais pourquoi il interprétait les choses comme ça, mais à ce moment, j'ai lu que le principe était à son esprit très clair. Il faut interpréter le passé à la lumière du présent. Et voilà, lorsque on vous dit, moi je suis pour la tradition, et je veux qu'on garde la tradition, il faut faire comme on l'a toujours fait, eh bien c'est comme on l'a toujours fait depuis Grégoire VII. Et donc Grégoire VII, il était pape en 1073, il s'appelait Hildebrandt. Donc c'est une petite résonance pas tout à fait italienne, hein. Mais voilà, c'est à partir de lui que et les choses se sont organisées comme ça. Je vous remercie. S'il y a des questions, on fait une toute petite pause de 2-3 minutes, et puis on répond aux questions.